Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Place de la Toile, le magazine des cultures numériques. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h en direct et en public depuis le Salon du Livre de Paris, Porte de Versailles. Au sommaire de cette émission, Thibaut Henton qui s'est plongé cette semaine dans son ordinateur pour répondre à la question « Mais au fait, c'est quoi Synthesis ?» Thibaut que l'on retrouvera en toute fin d'émission pour son complément d'enquête. Le son, ce seront des tweets en pentamètre iambique. Et nos invités du jour, Georges Lewy et Thomas Mondémé, pour parler du bovarisme à l'heure du numérique. Ici, dans le studio de Radio France, au Salon du Livre à la Porte de Versailles, nous sommes dans un endroit entouré de pocketbook, le e-book alternatif, de lecture numérique, de Kindle, Amazon, de librairies numériques, de livres électroniques. Et nous, dans Place de la Toile, une émission consacrée aux cultures numériques, nous allons parler de Emma Bovary. Emma Bovary, donc, personnage si typique, et si typique du 19e siècle, voilà que revient Emma Bovary pour nous décrire, nous, les usagers d'Internet. Peut-être moins nous, d'ailleurs, que les plus jeunes, ceux qu'on appelle les natifs du numérique, toutes et tous des Bovary. C'est votre thèse, Georges Lewy, thèse que vous allez donc défendre ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes consultant, vous êtes essayiste, vous êtes écrivain, vous venez de publier conjointement deux textes, un essai et un roman. L'essai, c'est « Les nouveaux Bovary, génération Facebook, l'illusion de vivre autrement » et c'est paru chez Pearson. Et le roman, c'est « Bovary 21 » qui vient de paraître aux éditions François Bourin. Deux textes donc qui défendent cette idée du devenir Bovary des internautes. Alors on va évidemment accorder une place à votre théorie que vous allez devoir étayer, cette idée d'un bovarisme contemporain. Mais étrangement, Georges Lewy, dans ce qui ferait de nous des Bovary en puissance et même en acte, vous accordez une place très faible à la fiction. Car Emma Bovary, je dis très faible, car Emma Bovary est aussi, et même surtout, si j'ose dire, une figure de lectrice, un personnage de femme pervertie, enfin, en tout cas c'est ce que pense sa belle-mère notamment, par les récits à l'eau de rose. Emma Bovary est un personnage qui vit dans un autre monde et là, ça fait écho directement à des reproches que l'on adresse à l'Internet. Et pour discuter plus particulièrement de ces questions, j'ai invité un jeune professeur de littérature, Thomas Mondémé. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc professeur de littérature en classe préparatoire et vous venez de soutenir il y a deux mois, je crois, c'est ça, en février ?
Voilà, très récemment.
Une thèse sur l'effectivité de la fiction. Alors, question, vous n'avez peut-être pas forcément croisé dans votre corpus d'ailleurs Emma Bovary. Il fait partie de votre corpus, Emma
non,
Bovary ?
Non, moi c'est plus ancien. Je travaille sur des textes un petit peu plus anciens du 17e, où là aussi la lecture de romans particulièrement est vilipendée et très critiquée. Mais donc Emma Bovary peut s'intégrer à une réflexion quand même dans le même
oui,
cadre.
Oui, votre présence est légitime, ne vous inquiétez pas. Alors on va commencer avec vous, Georges Lewy, parce que avant d'entrer dans le détail de votre argumentation, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, à quelle occasion et pourquoi vous êtes venue cette idée saugrenue de considérer que les jeunes internautes pouvaient se comparer d'une manière ou d'une autre au personnage de Madame Bovary ?
Alors, globalement, le personnage de Madame Bovary, c'est un symbole, c'est une manière de mythe de l'espoir, qui est un espoir fou, qui est toujours un peu reporté, puisqu'en fait, ce qu'on définit comme le bovarisme, c'est le pouvoir de se croire autre qu'on est. Et donc, à partir de cette définition, on voit qu'on rencontre très vite, finalement, la génération, disons, des réseaux sociaux. Puisque dès qu'on se crée un avatar, on se crée des pages réelles, fictives sur un réseau social et qu'on donne une image de soi, ben nécessairement, on va très vite, finalement, retrouver ce pouvoir de se croire autre ou pratiquement d'être autre qu'on est dans la réalité.
Enfin, là, vous auriez pu convoquer, s'il s'agissait de convoquer des littératures, des textes, vous auriez pu convoquer aussi bien Marivaux. Qui est un théâtre des masques, par exemple, où tout le monde est autre tout le temps. Oui. Alors pourquoi Madame Bovary ? Pourquoi Flaubert ?
Alors pourquoi Flaubert ? Pour, je dirais, deux raisons. La première, c'est qu'en effet, Bovary, c'est pour ça qu'on continue d'en parler, c'est un véritable mythe. c'est en fait le mythe de l'illusion de l'espoir, et c'est le mythe, je dirais, qui vient de l'Antiquité, qui est de Pandore ou de Pramata dans d'autres cultures, voire d'Ève. Et c'est quoi finalement Pandore ? C'est une histoire extraordinaire d'une fille qui laisse échapper tous les maux et qui garde pour l'humanité l'espérance folle, hein, et qui inscrit au cœur finalement de l'homme l'espérance. Et donc c'est la grande différence, en tout cas pour moi, entre finalement l'humain et l'animal, hein, où l'humain il a toujours un espoir d'aller ailleurs et il va faire des milliers de kilomètres en pensée ou en réalité. Donc le premier élément, c'est qu'en effet, je pense que Bovary, c'est notre Pandore ou notre Ève contemporain. Et le deuxième, c'est qu'en effet, ce dont on s'aperçoit avec les réseaux sociaux, c'est que 74% des blogs sont créés et tenus par des filles. Et que le fameux pouvoir d'influence féminine, alors qu'on a connu quelquefois dans les salons littéraires, mais dont on parle depuis une vingtaine d'années, il est globalement effectif aujourd'hui, puisque trois quarts de la pensée qui est émise sur Internet, qu'elle soit de nature littéraire, scientifique, économique ou culinaire ou autre, globalement, c'est des filles qui émettent ça.
Et que donc, mais en même temps, Emma Bovary est un personnage ambigu du point de vue de sa féminité, non ? Enfin, il me semble. Je pensais par exemple à ce que en disait Baudelaire. Enfin, cette manière qu'elle avait de se donner, qu'elle caractérisait de typiquement masculine.
Oui. Alors, en fait, il y a un parallèle qui est fait souvent entre Bovary et Don Quichotte.
Puisqu'en fait,
il y a un véritable parallèle. Et donc, en fait, l'espoir avec un grand E, il est à la fois féminin et masculin. Dans le cadre de Flaubert, il est clairement quand même féminin, hein, puisque elle va de mec en mec et où elle cherche en permanence à trouver un bonheur qu'elle n'arrive pas à trouver au travers des différents mecs qu'elle peut rencontrer.
Donc selon vous, si j'essaie de rassembler, donc ce qui fait écho en nous, enfin en nos internautes, plutôt les jeunes d'ailleurs que vous, c'est plutôt les jeunes que vous visez par là, c'est donc l'idée de l'espoir, l'idée du féminin, disons, bon, voilà. Et vous évoquez aussi deux autres paramètres qui sont la transparence.
Oui.
Alors je vois pas très bien. Alors là, il faudrait vous expliquer ça. En quoi est-ce que déjà Emma Bovary est un personnage qui d'une manière ou d'une autre fait écho à cette idée de transparence, et en quoi vous voyez la transparence dans les aspirations des jeunes internautes.
Alors, Georges Lewis. On va commencer par les internautes.
Ouais.
La génération, je dirais d'aujourd'hui, celle que l'on vit, y compris nous-mêmes, c'est la génération Wikileaks. C'est la génération Snowden, où globalement, finalement, il y a une demande, il y a quasiment une exigence de transparence, même si on sait que cette valeur, c'est un élément difficile finalement à jouer jusqu'au bout, puisque si on devient complètement transparent les uns les autres, si vous exprimez ce que vous pensez de moi à ce moment-là et vice-versa, globalement, très vite, on va s'entretuer. Mais globalement...
Vous aimez peu l'humanité, Georges Lewis.
Mais globalement, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie exigence de transparence.
D'accord.
On se met, entre guillemets, à poil sur son compte Facebook et on demande aux autres d'en faire autant, à la société d'en faire autant. Alors globalement, quand vous relisez bien Flaubert, vous apercevez que derrière toute la dissimulation, d'Emma Bovary, tous les mensonges qu'elle peut avoir, elle a une exigence fondamentale, en effet, de grande vérité et d'une grande transparence vis-à-vis des autres, comme le sont complètement notre génération. Autre élément complémentaire qui là est en effet très bovarique aussi, il y a la base de notre génération aujourd'hui ou des nouvelles générations, c'est la rencontre.
Oui, c'est le quatrième pilier de votre rapprochement, la rencontre.
La rencontre, puisque globalement, à partir du moment où je participe à un réseau social, globalement, j'essaye d'avoir le maximum d'amis possible et d'avoir une logique de rencontre qui est assez forte et de dialoguer en permanence et de créer des manières de communauté. On peut s'apercevoir que chez Bovary, chez Flaubert, c'est exactement ça. Il y a en fait de quoi meurt réellement Emma Bovary. Elle meurt de solitude, d'avoir loupé cette rencontre, finalement, ces rencontres réelles qu'elle cherchait.
Elle est victime de l'illusion de la rencontre possible.
Absolument. Un petit peu comme notre génération, où on peut dire que là, on est vraiment dans une logique d'illusion, puisque ces rencontres, quand on a 5000 amis, bien, c'est super sympa, je dirais, on se croit très puissant parce qu'on a 5000 ou 50 000 amis, mais on est loin d'avoir 5000 vrais amis et on est loin de les avoir rencontrés.
Alors, est-ce que... La convocation de Madame Bovary, du personnage de Madame Bovary pour décrire cette jeunesse numérique, c'est pas une convocation très positive dans votre esprit, Georges Lévy, puisque vous nous dites l'aspiration de la transparence est ambiguë, le rapport à la rencontre est un rapport d'illusion et d'illusion perdue. C'est pas une convocation très positive, très euphorique dans votre esprit.
Alors oui, je suis d'accord avec vous, ça n'est pas euphorique et quand on va sur le roman, on s'aperçoit que c'est pas euphorique du tout.
Ben non, hein, ça finit mal.
Puisque finalement, ça finit alors différemment que chez Flaubert, mais ça finit pas très bien.
Et là, vous parlez de votre roman.
Du roman, voilà,
Bovary
du
21.
Roman de Bovary 21.
Pourquoi 21? Parce que vous estimez 21e que...
21e siècle.
Ah d'accord. Hein, okay.
Et c'est pas trisomique, comme un journaliste m'a dit.
Ah ouais, j'ai pas pensé à ça, c'est de mauvais esprit.
Mais... Bon. Et donc, quand on va dans le roman, on s'aperçoit qu'en effet, il y a une manière de désillusion, comme il y a chez Flaubert d'ailleurs, qui est le fait que Bovary 21, Emma 21, celle du roman d'aujourd'hui, elle va vivre la même vie sentimentale à peu près que finalement Emma Bovary, et elle va avoir quelque part les mêmes échecs qu'a pu avoir son aïeul. Et c'est là où on peut dire que ce côté mythe existe, puisqu'il y a une manière d'invariant en quelque sorte, il y a une manière de continuité des comportements humains au travers des époques.
D'accord, non, mais je suis d'accord avec ça, mais quand je disais positif ou euphorique, c'était dans le regard que vous-même vous portez sur cette jeunesse, ses pratiques, ses aspirations. Alors, convoquer un personnage comme Emma Bovary, qui est quand même un personnage qui meurt, qui est un personnage par ailleurs pas avec lequel on entretient en tant que lecteur des relations qui sont elles-mêmes ambiguës, pas de totale sympathie ou de totale admiration, c'est pas les mettre dans une position qui soit une position très valorisée, Georges Lévy.
Alors, l'essai se termine sur un peu plus d'optimisme que ce que vous exprimez, puisque finalement, je pose une question qui est celle-ci. En fait, cette génération, on s'aperçoit qu'elle vit à côté, finalement, du mainstream, de la société dans laquelle on est, en créant des micro-communautés dans lesquelles elle s'épanouit. Et je vois moi-même mes étudiants, par exemple, ils rêvent plutôt de créer une start-up à quelques copains que de rentrer chez Total ou chez L'Oréal immédiatement. Et donc, ce qui était très différent de ce qu'il y avait il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Et donc, la vraie question que je pose à la fin de l'essai, et y compris un petit peu dans le roman, c'est est-ce que cette génération va arriver à infléchir la société et que la société complète devienne une société finalement de micro-communautés qui vont se rencontrer, et on retrouve le thème de la rencontre.
Alors Thomas Mondémé, ça m'intéresse d'avoir votre regard, vous, de professeur de littérature, sur, avant tout, on reviendra sur la rencontre, le féminin, comment ils sont à l'œuvre dans Madame Bovary, mais sur l'usage même du personnage d'Emma Bovary. Parce que l'histoire du bovarisme, c'est une histoire des usages, du personnage, de ce que donnait Flaubert, sans forcément d'ailleurs vouloir donner ça. Comment vous regardez cet usage-là? Est-ce que c'est l'énième avatar, pour utiliser un mot du numérique, et pas seulement, aussi du numérique, de l'utilisation d'un personnage? Comment vous le voyez, vous?
C'est vrai qu'effectivement, ce personnage d'Emma Bovary, il a fasciné pas mal de gens, et moi j'ai été un petit peu surpris à la lecture de l'essai, surtout de Georges Lévy, parce que j'ai ressenti aussi un regard plutôt positif sur ces nouveaux Bovary. Et je me suis dit que finalement, quand Flaubert publiait son roman, les gens étaient plutôt émus. Quand je dis les gens, je pense à Sainte-Beuve, je pense à George Sand, et qui se disaient que finalement ce roman était très beau, mais il n'y avait vraiment aucun personnage de positif dedans. Et en lisant l'essai de Georges Lévy, j'ai eu l'impression de voir beaucoup, au contraire, de personnages positifs. Donc, il y a certainement une bienveillance que je n'ai plus, moi, mais que vous avez encore, mais à l'égard de cette génération.
Parce que je suis jeune.
Suis encore jeune. On ne dira pas à l'antenne nos âges respectifs.
Absolument.
Il y a une sorte d'inversion générationnelle sur le regard.
Exactement. Et c'est vrai que j'ai été un petit peu surpris par cet aspect-là. La deuxième chose, c'est que finalement... J'ai l'impression qu'effectivement, il y a peut-être une sorte de distorsion entre le livre de Flaubert, Madame Bovary, et ce qu'on a pu appeler le bovarisme après. Parce qu'il faut dire que ça vient quand même d'un essayiste qui s'appelle Jules de Gautier.
C'était qui, Jules de Gautier ?
Jules de Gautier, c'était un personnage un peu particulier, parce que quand on relit le bovarisme aujourd'hui, on est un peu surpris de voir que il y a derrière une sorte de mélange de thèses très hétéroclites. C'est quelqu'un qui a des vues assez arrêtées sur l'immigration, sur le colonialisme, etc. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il réduit l'œuvre de Flaubert à peau de chagrin, c'est-à-dire qu'en gros, il y voit un symptôme qui est plutôt même un trait fondamental de l'esprit humain, qui est effectivement de se penser autre que ce qu'on est.
Celui que vous reprenez, oui, Georges.
Voilà, il sous-titre d'ailleurs son livre « Essai sur le pouvoir d'imagination ». Alors effectivement, Madame Bovary a de l'imagination. Le problème, c'est que cette imagination est sans cesse ridiculisée par Flaubert tout au long du roman, que finalement Flaubert lui-même, quand on lit un petit peu sa correspondance, on s'aperçoit qu'il n'avait pas vraiment d'intérêt pour le personnage en lui-même. Il souffre beaucoup d'ailleurs à écrire ses rêveries, il est obligé de relire des vieux romans un peu naïfs pour entrer dans la tête d'une jeune fille un peu naïve de l'époque. Et c'est vrai qu'il y a des passages d'une cruauté incroyable. Quand Madame Bovary a des vapeurs, elle est un petit peu émue, elle se met à la fenêtre, et là Flaubert écrit « L'air circulait dans sa tête creuse ».
Voilà. Alors, j'avais oublié ça.
Oui. Alors, en même temps, Flaubert dit « La Bovary, c'est moi ». Hein, c'est-à-dire qu'il reconnaît au travers de ce personnage qu'il méprise, mais sans doute parce qu'il a beaucoup travaillé dessus, hein, que finalement c'était un côté un petit peu forcené, c'était une manière de bagne, hein, puisque c'est un personnage qui pour lui était extrêmement différent. Et à la sortie, ça devient le substrat ou le concentré quasiment de l'humanité, hein, qui est décrite au travers de ce personnage. Je voudrais ajouter simplement un petit mot. Au-delà de Jules de Gautier, en effet, qui a décrit ça comme une pathologie. Il faut savoir qu'on est à la fin du 19e siècle et qu'on découvre la psychiatrie et qu'à partir de ça, on essaye de trouver des noms à toutes les pathologies du moment. Hein. C'est toute la grande époque Charcot, etc. Pardon. Après, ça a été repris par des gens comme Nietzsche et comme Lacan, qui ont complètement repositivé en fait le bovarisme en disant finalement sans bovarisme il n'y a plus d'humanité. Hein, c'est une façon de se dépasser soi-même. Hein, cet espoir un peu fou nous a amenés et sur la Lune et à découvrir les Amériques et à découvrir, je dirais, plein de choses dans la science.
Et Thomas Mondémé, sur les 3-4 piliers que évoque Georges Lévy comme étant des piliers de comparaison possibles entre, entre le personnage de Madame Bovary et les internautes, il me semble que c'est compliqué. C'est-à-dire que, est-ce que d'abord vous considérez que transparence, rencontre, féminin même, ou espoir soit, selon vous, dans votre lecture au centre du personnage de Flaubert? Et par ailleurs, quel regard vous avez sur ce rapprochement avec une génération qui est presque la vôtre, hein, d'ailleurs, qui est décrite dans le livre?
On pourrait presque dire ça, on va me rajeunir un petit peu. Mais c'est vrai que j'ai été aussi un petit peu surpris par cet emploi du concept de transparence, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup effectivement de dissimulation chez Madame Bovary, chez Emma Bovary, de tromperie. Il y a des scènes assez incroyables où elle se cache de Charles pour... elle cache un panier d'abricots avec une lettre de Rodolphe, son amant, dedans, etc. Il y a beaucoup de dissimulations. Je rappelle d'ailleurs que l'une des scènes les plus célèbres et les plus scandaleuses de ce roman se passe dans un fiacre avec les rideaux tirés. Et je laisserai au lecteur curieux le soin de découvrir ce qui se passe vraiment dans ce fiacre. Mais donc la transparence, c'est vrai, ça ne m'avait pas vraiment frappé comme étant une des caractéristiques de Madame Bovary. Quant à la question de cette génération Facebook, c'est vrai qu'on a pu avoir cette impression-là d'une transparence accrue à un moment. Et de fait, Wikileaks et Snowden sont des marqueurs, on va dire, importants dans l'imaginaire médiatique actuel. Sauf que j'ai l'impression que cette génération ne va pas sur Wikileaks. Et d'ailleurs, on la comprend très bien, c'est pas possible d'aller sur Wikileaks et d'en sortir quelque chose de maîtrisable. De la même façon, quand elle crée un profil Facebook, on est plus dans un jeu qui est aussi un jeu d'exhibition, dissimulation. Vous parliez tout à l'heure des avatars, et c'est vrai qu'il y a ça aussi. Et ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est de voir l'évolution dans les réseaux sociaux, le passage de MySpace à Facebook, par exemple. Parce que MySpace était un réseau social, pour le coup, vraiment autour de la création de soi-même. On pouvait vraiment s'inventer un personnage, etc. J'avais l'impression qu'avec Facebook, on était passé à plus de transparence, notamment parce qu'il fallait avoir vraiment son vrai prénom.
S'identifier en tant que soi-même.
Exactement. Ouais. S'identifier vraiment comme un individu très précis dans la société. Et je me suis rendu compte, en discutant avec mes élèves au fil des dernières années, qu'eux avaient réintroduit du jeu, avaient réintroduit de l'opacité dans leur comportement en ligne, qu'ils arrivaient finalement à s'inscrire sur Facebook avec des pseudonymes, à avoir 3 ou 4 profils Facebook différents.
Selon le public visé.
Exactement, selon le public visé, les amis requestés, etc. Donc la transparence, c'est effectivement quelque chose qui circule beaucoup dans l'espace conversationnel, dans l'espace médiatique, mais je pense que c'est important de lui conserver effectivement un statut d'illusion, c'est-à-dire une illusion d'arrière-plan, et elle s'incarne très peu dans le roman de Flaubert, elle s'incarne très peu dans la société actuelle.
Donc, pourquoi c'est une illusion ? C'est qu'en fait, la transparence, autant dans le roman de Flaubert qu'aujourd'hui, c'est en fait une exigence de la transparence, de la part de la personne, en fait de l'émetteur. Hein. Globalement, moi je dissimule, je montre un petit peu, mais j'exige, comme je montre un petit peu, j'exige de l'autre, et en particulier des institutions, de l'entreprise, etc., que finalement, elle soit, elle, complètement transparente.
D'accord. Et chez Flaubert, c'est une exigence paradoxale, réciproque.
Et absolument. Et ce n'est pas réciproque du tout. Et chez Flaubert, c'est exactement ça. C'est-à-dire l'exigence d'Emma Bovary de vérité de la part de ses amants, elle est absolument totale. Alors qu'elle-même est dissimulatrice et elle est presque un avatar d'elle-même, si on reprend un mot qu'on a utilisé tout à l'heure.
Elle est affabulatrice même. Quand elle va se confesser, elle invente des petits péchés. Ouais. Pour se sentir un peu exister.
Et sur le féminin, on a rapidement évoqué la question du féminin aussi. Georges Lévy disait voilà, 74% des blogueurs sont des femmes. Alors, bon, c'est très compliqué la question du féminin sur Internet, puisque c'est aussi un énorme lieu d'expression du sexisme, et que par ailleurs, la communauté informaticienne et geek est une population plutôt masculine. Comment ça se passe dans le féminin, disons, d'Emma Bovary, il est comment ?
Sur le féminin, il y a deux choses. C'est vrai que moi, c'est peut-être aussi une question un peu plus générationnelle, là, mais j'ai beaucoup de mal à identifier une série de traits qui soit emblématique du féminin ou qu'on pourrait englober sous l'étiquette le féminin. J'imagine quand même que chez Flaubert, et connaissant un petit peu Flaubert, Emma Bovary emblématise effectivement quelque chose qu'il appellerait l'élément féminin lui-même. Je pense qu'il y a ce machisme-là derrière, ou du moins cette différenciation-là. En ce qui concerne la parole... publique sur Internet, c'est peut-être difficile de la genrer, en fait. Parce que c'est vrai qu'effectivement, les blogueuses, c'est une réalité. C'est d'ailleurs même malheureusement devenu un peu une insulte aujourd'hui de dire de quelqu'un que c'est une blogueuse mode. On sait ce que ça veut dire. Donc le problème, c'est que... Bon, il faudrait voir un petit peu si...
En revanche, ce qui est intéressant et pas complètement faux, c'est que l'espace de la fiction... sur Internet, c'est-à-dire que, par exemple les fanfictions qui sont quand même un champ d'écriture monumental en termes de quantité de personnes mobilisées, enfin, il suffit d'aller voir sur fanfiction.net, je ne sais pas, il y a 800 000 fanfictions autour de simplement Harry Potter ou Twilight. En revanche, ça c'est un espace du féminin, étrangement.
Et il y a des espaces spécifiquement féminins. J'ai participé récemment encore à un salon qui était le salon des mamans blogueuses.
Un salon un peu de pointe, un peu de niche.
C'est une niche, mais j'ai appris en participant à ce salon, à une table ronde, qu'il y avait 3200 en France mamans blogueuses. D'accord. Il y avait 3200 blogs uniquement de mamans qui venaient d'accoucher, qui racontaient leur expérience. D'accord. Et où globalement, et on était dans cette logique d'émetteur et quelque part de transparence, même si c'est une transparence sans doute voilée.
Alors, on va aborder la deuxième partie de notre discussion, parce que il y a quand même un élément essentiel de, à la fois du personnage d'Emma Bovary tel que Flaubert le concevait, de ce que c'était que le bovarisme, et du coup du rapprochement qu'on peut faire entre le personnage d'Emma Bovary et l'Internet et le numérique aujourd'hui, qui est le rapport à la fiction, à l'immersion et à l'effectivité, pourquoi pas, de l'immersion et de la fiction, comme le rappelait encore tout récemment le film de Spike Jonze qui est sorti il y a quelques jours sur les écrans, et que c'est un aspect que vous abordez très peu, Georges Lévy, donc c'est intéressant qu'on passe un peu de temps là-dessus. Mais avant, la chronique de Thibaut Henton, Thibaut qui s'est plongé cette semaine dans son ordinateur pour répondre à la question, mais au fait, c'est quoi Synthesis ?
C'est quoi Synthesis ? Depuis le temps que j'en parle, très souvent à ce micro, je fais référence à des liens, des informations ou des conversations tirées de ce site. Très souvent, oula, que se passe-t-il ? Très souvent, dans mes conversations tout court, à vrai dire, j'y fais référence. Trop sans doute, je suis moqué pour ça, oui. Mais je m'en fiche, parce que Synthesis représente quelque chose de plus grand que Synthesis. Heureusement d'ailleurs, parce qu'avec 200 auteurs actifs sur environ 2000 enregistrés, le phénomène n'est pas tout à fait massif. Synthesis, donc, vu ça en français, est un site au code ouvert et en licence libre qui, je cite, permet de tenir à jour un blog personnel constitué de billets courts, mais sans qu'il y ait pour autant de limites de caractère comme sur Twitter. Principalement destiné à la veille d'actualité, à la recommandation de liens entre pairs. Le site est associé à un système de forum public. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement d'un site, mais aussi, mais dans un deuxième temps seulement, d'un réseau social. On y commente l'actualité, politique, géopolitique, technologique, les oppressions de classe, de race, de genre, surtout. Le sujet drone, par exemple, est particulièrement documenté. On y partage aussi des choses belles et drôles, des images, des vidéos, des sons, qui sont tous lisibles depuis le site. Si je copie-colle un lien vers YouTube ou vers un point MP3, un player apparaît. Je n'ai qu'à cliquer sur « Lecture ». Si je copie un GIF, l'image se met aussitôt en mouvement, etc. Veille d'actualité, j'entends une voix me dire « Non mais, et puis quoi encore ? La barbe, pas que ça à faire ? C'est un outil pour les journalistes, ce machin ? Moi, je suis pas journaliste, ok ?» Mais la veille, c'est pas qu'un truc réservé aux pros de l'info, si ? Surtout quand on est très critique des médias, et manifestement, on est très nombreux à l'être, puisque parmi les professions les plus détestées, il y a celle de journaliste. On devrait donc être super heureux de disposer d'un outil de tri et d'organisation de l'information qui permet de se fabriquer un média à sa sauce, en piochant ça et là, non ? Au lieu de critiquer sans rien faire ni proposer, voilà de quoi être positivement critique. Ok, reprends la petite voix, mais il y a Facebook pour ça, non ? Mes amis y sont tous, et quand je partage un truc, il n'y a qu'eux qui le voient. À la limite, quand je partage une info, c'est plus leur réaction que l'information en elle-même qui m'intéresse. Tu me désespères. Je te demande pas de renoncer à tes amis ni au divertissement. Là, je cherche pas à jouer les pisse froids, juste à te montrer qu'en partageant des choses sur Facebook, tu es rivé au piqué de l'instant. Captif du temps réel. Et pas si réel que ça, puisque le flux d'informations qui s'affiche est construit par des algorithmes personnalisés. Ce qui s'affiche, c'est le produit de plus en plus sophistiqué d'une formule qui t'a pris toi pour critère, toi et tes penchants. Le problème, c'est que tout ce qui privilégie le temps réel pour lui-même a généralement un intérêt immédiat à le faire. Et le plus évident de ces intérêts immédiats, c'est la publicité, c'est-à-dire le bourrage de mots. Avec Synthesis, je bascule dans l'autre camp, celui de l'archive, de l'élaboration patiente, du reviens-y, et pas que pour les dernières actualités. Voilà donc pourquoi Synthesis représente quelque chose de plus grand que Synthesis. Il nous inscrit dans un autre rapport au temps, dans lequel réfléchir librement et de concert la technique et le politique. Voilà, j'espère que c'est clair maintenant. Synthesis, c'est bon, mangez-en. I've had an absolutely awful day.
D'enquête. Alors on est en train d'écouter un extrait d'une expérimentation assez étrange. Les paroles de ce morceau, le morceau s'intitule Something Wrong. En fait, il y a toute une série de morceaux, on en a choisi un. Donc ces paroles sont extraites d'un compte Twitter qui s'appelle @pentametron. L'idée, c'est d'aller chercher grâce à un algorithme des tweets publics qui sont écrits en pentamètre iambique et les insérer dans une mélodie. Vous voyez ? Donc c'est une sorte de dommage involontaire de la tweetosphère à Shakespeare, enfin l'ensemble de la poésie anglaise, mais à Shakespeare en particulier. On remercie l'auteur de ce travail qui nous l'a signalé. et qui s'appelle Fail Lie. My Nana is a trendy leader, she excites, he doesn't even cover me. Love might be something people never knew. Vous écoutez France Culture, Place de la Toile, le magazine des cultures numériques aujourd'hui en public et en direct depuis le Salon du Livre qui se déroule comme chaque année, porte de Versailles à Paris. Et nous parlons aujourd'hui, tentons un rapprochement étrange, saugrenu, entre le personnage de Madame Bovary et l'internaute, la figure de l'internaute, autour de cette idée qui a été émise donc dans deux livres consécutamment par Georges Lévy. Alors on a discuté votre argumentation, les points de votre rapprochement, et je le disais en fin de première partie d'émission, la chose étrange dans la manière dont vous avez conçu ce rapprochement, c'est que vous mettez de côté, vous intéressez assez peu à la question du rapport à la fiction. Or, le bovarisme, le personnage d'Emma Bovary, Madame Bovary, c'est un personnage de lecteur. Bon. Pourquoi est-ce que vous avez mis de côté cet aspect du personnage qui pourtant me semble assez fertile quand on tente des rapprochements avec, avec l'internaute et avec le numérique?
En fait, parce que j'ai conçu le projet en effet en, je dirais, deux temps, voire trois temps. Le premier temps, c'est celui où j'aborde pas du tout la question de la fiction, qui est une manière d'étude sociologique, puisque j'ai suivi 200 gosses d'une vingtaine d'années, et donc pour créer l'essai Nouveau Bovary. Le deuxième étant la mise en application sous forme fictionnelle.
D'accord, c'est vous qui produisez la fiction, mais c'est pas...
Absolument. C'est normal, d'accord. Ouais. Et donc, où là, en effet, on a quelqu'un qui vit complètement dans un monde de fiction et où on est en littérature, puisqu'en fait, on a un parallèle presque absolu, ouais, chapitre à chapitre, entre Emma Bovary et Bovary 21, donc...
D'accord, donc, donc le rapport à la fiction est présent, mais en sorte de méta-rapport.
Absolument, absolument.
Thomas Mondémé, alors avant d'essayer de les parallèles, mais on va s'y risquer, c'est quel personnage de lectrice est Emma Bovary et quelle place tient l'arrière-fond, disons, de cette idée que une part de son mal-être, de son malheur, proviendrait de ce rapport à la fiction?
Alors c'est évidemment un personnage de mauvaise lectrice, mais comme il en existe énormément dans la littérature, c'est-à-dire qu'on peut remonter à Don Quichotte, après Don Quichotte il y en a d'autres, il y a aussi un personnage qui est beaucoup moins connu au XVIIe siècle, qui apparaît dans le roman de Sorel qui s'appelle Le berger extravagant, où on a un personnage qui, en gros, croit vivre dans une pastorale, c'est-à-dire qu'il a lu les romans comme L'Astrée, ou des bergers qui parlent très bien, entretiennent des amours incroyables, et il parle à ses brebis comme s'il parlait à des semi-divinités, alors qu'en fait, on se rend compte assez vite que c'est vraiment des brebis galeuses. Ouais. Et donc voilà, en fait, la plupart du temps, la plupart des personnages de lecteurs dans la littérature sont quand même très souvent moqués, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui entretiennent un rapport problématique au réel à cause d'une lecture, on va dire, trop adhésive, si j'ose dire, ou trop immersive. Ils sont rentrés dans la fiction, ils n'en sont jamais sortis, et ils projettent sur le monde une grille de lecture qui ne lui correspond absolument pas. Et Emma Bovary, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle a dans la tête une sorte de mélange de littérature populaire de l'époque, d'idées romantiques, un petit peu de poésie lamartinienne que Flaubert exécrait. D'ailleurs, il y a une scène très belle où elle est avec Léon en barque, et Flaubert écrit quelque chose, comme ils étaient il raconte qu'ils sont en barque, et il y a une phrase, ils ne manquèrent pas de faire des phrases. Voilà, ah, ne manquèrent pas de faire, voilà, évidemment. Parce qu'évidemment ils se prennent aussi pour des poètes.
Mais est-ce que ça veut dire que la lecture immersive est en elle-même, est-ce que c'est des figures de mauvais lecteurs immersifs, ou est-ce que la lecture immersive est en elle-même quelque chose de suspect? Je pense juste à une anecdote d'ailleurs que j'ai jamais réussi à trouver exactement la source, mais que je me souviens avoir lu dans une biographie très rapide de Balzac, qui est que quand il est adolescent, le jeune Balzac a un moment un peu de moins bien dans sa vie, que ses parents attribuent aux heures passées à lire dans son lit, ou sur un fauteuil, quoi. C'est-à-dire à cette espèce de suspicion portée sur la figure du lecteur. Et c'est là où, évidemment, pourquoi ça nous intéresse, nous, dans une émission de culture numérique, c'est que c'est évidemment des reproches qui, parfois, dans la formulation même ressemble tellement aux reproches qu'on adresse aux joueurs, par exemple, de jeux vidéo.
Oui, c'est une vieille problématique, parce que ça remonte à Platon, évidemment, et à la condamnation de la fiction. Il faut voir que quand Platon parle de la fiction, il n'en parle qu'avec, presque avec un champ lexical, qui est celui de la contagion. Donc la fiction est une maladie.
C'est pathologique.
Voilà, c'est pathologique. La fiction se transmet et peut contaminer les comportements. Alors ça va trouver ensuite un héritage aussi dans des réflexions au XVIIe siècle, et aussi d'ailleurs, puisqu'on parlait tout à l'heure d'Avatar, des réflexions sur le métier d'acteur. Jouer une pièce de théâtre, c'est devenir autre, c'est se projeter dans un espace fictionnel, et devenir autre à cette époque-là, ça ressemble fortement à la possession démonologique, par exemple, à la possession démoniaque. Donc il y a ça aussi, il y a ça derrière. Et effectivement, chez Madame Bovary, on trouve des échos de cette dénonciation fictionnelle, puisque Madame Bovary, mère, la mère de Charles, demande à un moment qu'on empêche le libraire de donner des romans à Madame Bovary et de, je cite, de faire son métier d'empoisonneur public. Donc de Platon jusqu'au libraire de Madame Bovary, il y a cette idéologie de la maladie, de la contagion, etc. Et cette maladie se transmet par immersion fictionnelle, effectivement. Donc voilà, il y a cette idée. Alors, quant à Flaubert lui-même, il ne fait aucun doute qu'il y a dans ce roman effectivement des passages immersifs où le lecteur est invité à ressentir en empathie d'une certaine façon un certain nombre de choses avec les personnages, et qu'en même temps, de façon très régulière et très cruelle, il y a des passages, on va dire plutôt critiques, qui sont là pour désamorcer ces passages immersifs.
C'est-à-dire que Flaubert conçoit lui-même la sortie de l'état immersif du lecteur.
Exactement.
Mais avec quel procédé il le fait ?
Alors, c'est évidemment des petites remarques ironiques, on va dire, de façon classique. Par exemple, quand le professeur, au début, se moque de Charles Bovary, le narrateur flaubertien rajoute entre deux virgules, dit le professeur, virgule, qui était un homme d'esprit, virgule, alors qu'il vient de dire un truc complètement idiot. Donc on comprend tout de suite l'ironie. Après, il y a des indices plus subtils qui sont, par exemple, puisque le rapport de Flaubert à ses personnages était effectivement ambigu, mais même parfois un rapport de détestation, il penche plus à les détruire qu'à les construire. Il y a la mort de Charles Bovary, par exemple, qui est une mort absolument incroyable.
On la lit très très vite, parce que comme elle a la fin...
Voilà, ouais. Elle est complètement anti-héroïque. Alors, il faut déjà voir peut-être la demande en mariage de Charles Bovary, où Charles Bovary ne demande rien, passe une page ou deux à balbutier, à bafouiller, et puis le mariage se fait sans lui, d'une certaine façon. Enfin, le contrat se fait sans lui. Et sa mort, la mort de Charles Bovary est toute simple. Il s'assoit sur un banc, et puis il meurt. Alors, il y a ça, déjà. Ouais, et ensuite, il y a la phrase de Flaubert après, qui est à peu de choses près, je cite de mémoire, « On l'ouvrit et on ne trouve à rien ». On l'ouvrit au sens de l'autopsie, mais aussi le personnage est vide. Ouais, il n'existe pas. Et puis, à la fin du roman, évidemment, je ne sais pas si vous vous souvenez la dernière phrase de ce roman, « Il vient de recevoir la croix d'honneur ». On parle de Homais, le pharmacien, et c'est donc un roman qui se termine sur le couronnement d'un imbécile. Voilà, ça, Madame Bovary.
Mais et quand est-ce que... Alors, bon, vous n'êtes pas un spécialiste de l'histoire de la lecture, mais selon vous, à quel moment est-ce qu'il y a une inversion qui se produit et qui fait que la lecture, tout type de lecture qu'il soit, c'est-à-dire que, qu'on ne soit plus inquiet du fait que, je sais pas, une jeune personne passe son après-midi à lire. Est-ce qu'il y a un moment de retournement ? Parce qu'on sent donc chez Flaubert que c'est ambigu, c'est-à-dire qu'à la fois lui-même invite à une lecture immersive et en même temps est une critique de la lecture immersive. Et quand est-ce que ça devient complètement... je me posais la question, excuse-moi, j'ai mis une hypothèse complètement bête. Est-ce que c'est pas, par exemple, l'arrivée d'un autre médium de masse, type, je sais pas, la télévision, qui fait que tout à coup, on considère la lecture comme étant l'archétype, disons, de l'immersion positive ? Je me pose la question.
Oui. Donc, la lecture se trouve requalifiée.
Alors qu'elle a été pendant des décennies, voire des siècles, critiquée comme...
Il y a deux choses ici. Je ne sais pas si on peut faire un historique de cette relation à la lecture. J'ai l'impression que cette ambiguïté a toujours été là. C'est-à-dire qu'on avait la condamnation platonicienne de la fiction d'un côté, mais en même temps, on avait sa valorisation aristotélicienne de l'autre.
D'accord.
Et ça a continué comme ça. Donc, il n'y a pas vraiment de moment où la lecture devient immersive et par définition devient mauvaise. Il y a à mon avis toujours les deux, et je pense que il y a aussi quelque chose d'autre qui est important là derrière, c'est la question du divertissement ou la question de la diversion, comme le disait Montaigne. Il y a une phrase de Montaigne qui me paraît absolument expliquer le rapport de l'homme et à la fiction et à Facebook. Cette phrase, elle est toute simple, c'est « peu de choses nous détournent car peu de choses nous tient ». Et voilà, là tout est dit. Peu de choses nous détournent, car peu de choses nous tient.
Alors expliquez-nous le rapport que vous faites entre cette phrase et par exemple Facebook.
Parce que l'homme est anthropologiquement dans la perspective, on va dire, de Montaigne, reprise par Saint-Évremond, un être qui a besoin de diversion. Montaigne dit aussi « nous pensons toujours ailleurs ». Alors en fait, penser ailleurs, ça veut dire aussi se croire autre qu'on est, ça veut dire se projeter dans des fictions, mais ça veut dire aussi tout simplement se projeter dans un univers semi-virtuel qui est celui de Facebook, qui a des attaches au réel et qui a quand même une composante virtuelle, une composante de création de soi, d'un moi fictionnel, etc. Donc à mon avis, il y a cette, si on avait vraiment à penser le rapport de l'homme et à la fiction et à ce qui concerne le jeu vidéo, le jeu avec les identités numériques, il serait peut-être à chercher du côté du divertissement. Et Saint-Évremond, dans la même perspective, dit que pour vivre heureux, je paraphrase un petit peu, il faut comme sortir de soi. Eh bien, la fiction et Facebook et tous ces nouveaux oui. médias servent aussi à ça.
Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en fait, les jeunes générations lisent énormément. Il suffit d'aller dans le métro et de voir, je dirais, ce qui se passe. Les uns et les autres, on est pendus à notre iPhone ouais. ou notre tablette. Et donc, il y a un rapport, en effet, à la lecture qui est très intrusif, très invasif. Et comme le dit Thomas très justement, c'est une façon sans doute de s'échapper d'un certain ennui hein, et de se projeter et d'être en relation. Et on retrouve tout le thème de la rencontre en permanence et tout le thème de ne pas être seul ouais. à cause de cela.
Alors la ouais. rencontre, c'est vrai que justement à propos du divertissement, je lisais il n'y a pas longtemps un article sur Tinder, sur ce nouvel outil qui est Tinder, que Thibaut, j'espère, connaît.
Oui.
Alors je vais expliquer un petit peu.
Il y a 2 minutes dans les coulisses.
Bon, d'accord. Alors Tinder, c'est tout simplement c'est un réseau social aussi d'une certaine façon, c'est un outil, c'est un site de rencontre. Ouais. La grande différence avec Mythic et OkCupid et les autres, c'est qu'il n'est pas du tout basé sur des algorithmes qui vont sélectionner des gens et en gros vous matcher avec eux. Il est basé sur la proximité physique des autres utilisateurs de Tinder. D'accord. Donc là, on retrouve cette idée de la rencontre, ouais. effectivement, et de la rencontre par
physique,
aussi physique et création. Sauf que, on s'aperçoit très vite, quand on regarde un petit peu l'utilisation réelle de Tinder, que ça marche beaucoup plus comme un divertissement que comme un vrai outil de rencontre. D'accord. Ce que les gens font, en fait, c'est dans les transports en commun, regarder les profils des uns et des autres, et soit les valider, soit les nexter D'accord. ou les rejeter. Ouais. Et les vraies rencontres physiques sont plus rares qu'on ne le pense.
Y compris sur Mythic, hein, où les études ont montré qu'en fait, il y a une partie des gens qui sont abonnés qui continuent d'avoir des rencontres virtuelles
Bien sûr,
ouais. et qui refusent quasiment la rencontre réelle ou qui la repoussent le plus longtemps possible.
Et Thomas Mondémé, je vous ai demandé d'aller voir ou de regarder Her, le film de Spike Jonze. Ouais. Vous avez pu le faire ?
Oui, j'ai eu le temps de regarder
donc,
ça.
Juste en 2 mois, parce que moi, ça m'intéressait d'avoir votre regard de vous, littéraire, professeur de littérature, spécialiste sur la question de l'effectivité de la fiction, de face à un film qui met évidemment ça, enfin, qui questionne cette question, évidemment, puisque l'argumentaire de Her, c'est un homme qui achète un système d'exploitation qui est plus qu'un système d'exploitation parce qu'il y a une sorte d'interface avec ses outils numériques et qui se trouve être une voix de femme et qui va tomber amoureux de cette voix de femme, évidemment avec toutes les questions que cela pose, parce que qu'est-ce que c'est que tomber amoureux d'un programme informatique, surtout quand le programme informatique lui-même commence à tomber amoureux de l'homme, voilà. Et donc ça pose des questions très belles. Comment est-ce que vous, le film est par ailleurs assez raté je pense, mais les questions sont assez jolies, quel regard vous avez vous qui passait votre vie à vous poser la question de la fiction en littérature sur un film comme ça.
C'est vrai que c'est très curieux ce film, parce qu'il y a toute une première partie du film où on pourrait être face à une réflexion aussi sur la fiction, parce que de fait cet élément féminin hein, ce système d'exploitation, puisque c'est le terme qui est employé, ouais. ce système d'exploitation qui est donc Her, qui est au centre de cette relation amoureuse avec le personnage principal, est aussi quelque chose qui a été écrit.
Eh ben,
qui a été programmé,
c'est du code.
Ouais. Voilà. Alors la grande différence, c'est que ce code est capable, enfin ce programme est capable de se reprogrammer lui-même. Et là, par contre, on sort de la fiction. Il est capable de s'upgrader lui-même et il est donc capable d'évoluer d'une façon très impressionnante dans le film, qui d'ailleurs, à mon avis, à un moment effectivement tombe un peu. J'ai l'impression qu'il y a dans le film une partie un peu plus ludique où il y a des jeux autour de ça, et la partie où le programme d'exploitation informatique, enfin le prétend être, commencer à être incarné, et là ça devient peut-être un peu plus sentimental.
Mais ça pose une question qui est intéressante, qui est la question de... C'est-à-dire que moi je me dis, voilà, moi je suis un littéraire comme vous, je vois les jeux vidéo et je me dis, voilà, qu'est-ce que j'aimerais réussir à me projeter là-dedans comme étant une sorte d'horizon totalement désirable de la fiction totale. Et y a l'informatique en un sens, et Her, c'est ça, c'est-à-dire que c'est la possibilité de la simulation jusqu'au moment où on se pose la question de que c'est plus de la simulation. Voilà.
Bon. Ouais, c'est ça. Et il y a l'illusion de l'illusion, quoi, à la sortie, hein, globalement. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de surenchère et on finit par ne plus savoir dans quel type de monde on vit et ce qui est.
L'accomplissement du bovarisme.
Ah voilà, c'est le sommet du bovarisme, absolument.
Thomas Mondémé.
Oui, effectivement. Alors, le sommet de l'immersion, le sommet du bovarisme, et on se disait tout à l'heure que la fiction pouvait être quelque chose de dangereux, mais je pense que. C'est aussi ce qu'on reproche aux jeux vidéo, hein, l'immersion des adolescents dans les jeux vidéo, dans des univers virtuels, où les repères quant au principe de réalité ne sont plus du tout les mêmes. Et c'est vrai que la fiction vient très vite comme un bouc émissaire dans le discours sociétal actuel. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, parce qu'on a vu tout à l'heure que la fiction était à la fois peut-être un poison, mais aussi un remède quand elle était bien maniée par Flaubert.
Un moteur.
Voilà, et là, avec ces trois choses-là, on a la définition précise du concept de pharmacon. Le pharmacon, dans l'Antiquité, c'est le poison, c'est le remède, mais c'est aussi le bouc émissaire. Et la fiction est peut-être le bouc émissaire de notre société.
Concept très cher à Bernard Stiegler, le
pharmacon pour décrire. Voilà, exactement, Stiegler et Derrida et d'autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que la fiction, les nouvelles formes de fiction, les fictions de vidéoludiques, on va dire, sont dangereuses? Moi, j'ai toujours eu une approche un peu distanciée par rapport à ces problèmes-là, en me disant que finalement, c'est pareil pour Madame Bovary, ça n'est pas la fiction qui cause le problème, c'est peut-être le manque d'autres fictions, le manque de plusieurs fictions différentes. Et je pense qu'on a un regard distancié et critique par rapport à la fiction, c'est-à-dire qu'on évite le piège de l'immersion fictionnelle trop importante quand on multiplie les expériences fictionnelles et quand on se forge une sorte de savoir-être fictionnel au fur et à mesure de nos lectures, aussi variées puissent-elles être.
On va laisser la parole à Thibaut pour son complément d'enquête. Alors, Thibaut, complément d'enquête.
Ah, d'accord. Donc, juste une petite précision, un code auto-apprenant, comme c'est le cas dans Her, c'est la définition d'une intelligence artificielle. Voilà.
Donc,
c'est tout, c'est un complément.
Thibaut se pose des questions à lui-même maintenant.
Voilà, c'est ça. Oui, je voulais vous demander aussi, il y a 15-20 ans, on voulait vraiment entrer chez L'Oréal ou Total ?
Absolument, absolument.
Vraiment, mais qu'est-ce qui passait par la tête des jeunes à l'époque ?
C'était en effet sans doute une drôle d'idée, mais en tout cas, c'était l'idée du moment, ce qui n'est plus du tout l'idée d'aujourd'hui. Et à la limite, on va chez L'Oréal et on va chez Total, faute de mieux.
D'accord.
Hein, vous avez... Faute de projet personnel et donc finalement, faute de mise en application d'un certain bovarisme, hein, d'aller chercher autre chose.
Vous avez mis à un moment un peu sur le même plan, j'ai trouvé exigence de transparence individuelle et exigence de transparence aux institutions, mais on ne peut vraiment pas du tout mettre ces deux choses-là sur le même plan.
Oui, en fait, l'exigence de transparence, c'est de la part de l'individu vis-à-vis des institutions, hein, pour être précis.
D'accord. Ensuite, sur la génération transparence, vous avez un peu critiqué cette génération Wikileaks, etc., en disant 5000 amis, mais on sait qu'on communique surtout avec seulement une poignée d'entre eux. Donc voilà, je ne sais pas, j'ai l'impression que votre vision
Est-ce que vous ne visionnez pas vous-même sur cette question-là ?
Non, il y a un vrai paradoxe. Il y a un vrai paradoxe, c'est-à-dire que globalement, les études montrent qu'on a les uns les autres 5 vrais amis en moyenne. Hein? Mais en même temps, il y a un désir de puissance qui est extraordinaire, et plus on a d'amis, et plus finalement il y a une espèce de reconnaissance de puissance. Il y a un des points dont j'ai oublié de parler, c'est qu'il y a une attente de minutes de gloire qui est très forte dans cette génération.
Sur Platon et la fiction, comme quoi la fiction pour Platon c'était aussi la viralité, c'était surtout la contagion. Et aujourd'hui il y aurait plutôt un renversement, c'est-à-dire que la viralité a plutôt un côté positif aujourd'hui.
Elle a un côté positif quand on veut vendre quelque chose, oui. Mais quand dans la, on va dire dans la pratique quotidienne du web, il n'y a rien de plus énervant que de voir sa timeline surchargée par des gens qui postent exactement la même vidéo une fois qu'elle est devenue virale.
Merci beaucoup à tous les deux, Georges Lévy, les deux livres sur lesquels on s'est appuyé, Les Nouveaux Bovary et Bovary 21. Thomas Mondémé, merci, vos références sont sur la page de Place de la Toile, une page où vous pouvez aussi réécouter cette émission pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an. La semaine prochaine, dans Place de la Toile, on ne sera pas au Salon du Livre. On fera une petite histoire de l'interaction homme-machine, une petite histoire de ce qui nous permet d'interagir avec la machine, la souris, l'écran tactile, la voix, où l'on reparlera peut-être de Spike Jonze. Ce sera avec Nicolas Rossel et samedi prochain à 18h10 dans Place de la Toile. Place de la Toile, Thibaut Henton, Xavier Delaporte, la stagiaire Marie Mougin à la technique ici au Salon du Livre. C'était Emmanuel Morse d'Incan et Pierrick Consigny, réalisation Vanessa Nadjar. Je vais tout de suite céder la place, toujours ici au Salon du Livre, en direct et en public. D'ailleurs, merci au public qui s'est tenu tout à fait concentré pendant cette émission. Elisabeth Tchungi pour sur écoute. Alors, qu'est-ce qu'on va entendre?
C'est une émission, Xavier, qui vous est spécialement dédiée, puisqu'il y sera question de tweets. Des tweets Cosmo Cuccino a compilés dans un superbe ouvrage, 140 piles, n'est-ce pas? Ouais. Et puis, nous parlerons aussi de sagesse du rock'n'roll et nous recevrons Dominica.
Ah, bah, très bien, beau programme. Merci beaucoup. Merci. Bonne émission.